Les vieilles aux yeux bleus. Chapitre 1. Vous les avez certainement rencontrées, les vieilles aux yeux bleus qui marchent à petits pas sur les trottoirs, le long des boutiques. Çà et là, parmi la foule des passants affairés, on en voit une se traîner doucement. Elles ont des chapeaux en paille noire, très profonds, sans ruban, attachés sous le menton à l'aide d'une ficelle. Elles sont vêtues de robes sombres, collées sur leurs membres maigres, et des châles jaunâtres ou verdâtres sont pendus à leurs épaules pointues comme accrochés à deux clous. Les pieds engourdis glissent avec un bruit pleurard. Les mains frileuses se cachent sous les coins du châle. Un des bras porte un cabas efflanqué. Elles marchent, baissant la tête, songeuses et remuant les lèvres, ainsi qu'un enfant qui prie. Au fond du chapeau noir, leurs faces pâles, flétries comme des fruits séchés, ont des blancheurs étranges. La chair s'est dissoute, la peau seule reste, pareille à un parchemin humide. Le sang a abandonné les lèvres, et dans une auréole violette nagent leurs yeux bleus, comme liquides et morts. Ces yeux ont une douceur effacée, une extase aveuglée et recueillie. Les vieilles aux yeux bleus ont certainement rapetissé, elles sont redevenues enfants, leur corps a les maigreurs, les délicatesses de la première jeunesse. À les voir passer, le chapeau noir cache leur visage baissé vers le trottoir. On les prendrait pour des petites filles qui vont à l'école. Elles ont la taille mince et souple des gamines, leurs bras frêles, leurs allures paresseuses et jeunes. Puis, lorsqu'elles dressent le front, on est épouvanté de voir sur le corps d'un enfant cette tête blafarde, bouleversée par toute une vie de passion ou de misère. Chapitre 2. Les garçons de 20 ans suivent les jeunes mollets qu'un coup de vent montre dans leur blancheur. Moi, j'aime à suivre les vieilles aux yeux bleus qui vont tout droit devant elles, sans tourner la tête, d'un pas régulier et songeur. Elles sont toujours seules. Elles ne marchent pas comme les belles de 16 ans, par bandes, tenant la largeur de la rue, riant à pleine bouche. Elles se montrent isolées. Elles restent humbles et discrètes. Elles se glissent sans bruit dans la foule qui ne les voit même pas. Je les connais toutes, celles des hauteurs du Panthéon et celles des hauteurs de Montmartre. Par les clairs soleils, par les froids secs, dès que j'en vois une, je règle mon pas sur le sien, je me plais à accompagner ce joli petit être si vieux et si délicat. Autrefois, lorsque j'étais encore naïf et que je ne savais pas à quelle créature mystérieuse j'avais affaire, je m'étais donné la tâche de découvrir le domicile des vieilles aux yeux bleus. Elles avaient hérité ma curiosité avec leurs regards morts et leurs senteurs de tombe. J'avais le besoin âpre de connaître leur vie, et j'étais décidé à monter chez chacune d'elles, comme on monte chez les belles filles qui veulent bien vous conter leur histoire. Je les ai suivies 3 ans, et je n'ai jamais pu savoir d'où elles sortaient, ni où elles rentraient. Brusquement, dans une rue, j'en apercevais une. Elle semblait surgir des pavés. Je me mettais à marcher patiemment sur ses talons. Elle, toujours morne et froide, elle avançait comme poussée par un mouvement d'horloge. Puis, tout à coup, lorsque je m'endormais, bercée par la vue de sa marche lente et régulière, elle disparaissait. Elle m'échappait. Elle était sans doute rentrée dans les pavés. Toutes m'ont ainsi glissé entre les mains, et je n'ai jamais pu contenter mes curiosités. Lorsque je songe à la chasse terrible et vaine que je leur ai faite, je suis prêt à croire que les vieilles aux yeux bleus sont les ombres de celles qui sont mortes d'amour et qui reviennent se promener sur les trottoirs où elles ont tant aimé. Aussi, la sagesse me venant, je me suis bien promis de ne plus chercher à connaître leur demeure. Je préfère croire qu'elles n'en ont pas et qu'elles s'éveillent de la mort chaque matin pour mourir de nouveau chaque soir. Chapitre 3. Depuis 10 ans, je les rencontre toujours aussi jeunes, sans qu'une nouvelle ride ait pu trouver place sur leur visage. C'est à croire qu'elles sont immortelles dans leur silence, dans leur marche lente. Que de romans j'ai rêvé par les tendres matinées de mai, lorsque je les suivais, le cœur vide et inquiet. Elles allaient au soleil, s'éveillant un peu aux tièdes caresses de l'air. Elles s'arrêtaient même parfois pour respirer plus largement et regarder devant elles. Quelle pensée de jeunesse emplissait ces pauvres corps tordus et amincis par l'âge. Quel souvenir des printemps lointains donnait un soupir à ces lèvres fermées. Il devait se passer tout un drame au fond de ces âmes jeunes, encore enfermées, dans ces chairs flétries et moribondes. Et alors, je me demandais quelles jeunes filles avaient été jadis les vieilles aux yeux bleus. Il devait y avoir en elles des histoires terribles et douces. D'où venaient-elles, toutes semblables, avec leurs chapeaux noirs, leurs châles jaunes ou verts? Qui les avait mises ainsi sur le pavé de Paris, isolées, toutes sœurs de visage et de vêtements? Elles arrivaient de l'inconnu, elles ne paraissaient point se connaître, et cependant, à les voir, on aurait juré qu'elles appartenaient à une même et lamentable famille. Qui sait, peut-être étaient-elles nées vieilles et courbées, ou bien elles avaient eu une même jeunesse, ardente et folle, qui, après avoir brûlé et durci leur chair, les conservait ainsi, sèches et rigides. Je me plaisais à cette dernière pensée. Je les voyais vêtues de mousseline blanche, avec des rubans roses, les yeux et les lèvres humides, dansant dans les closeries du dernier siècle et envoyant des baisers à la foule. Chapitre 4. Un soir de juin, comme l'ombre chaude et transparente tombait des marronniers du Luxembourg, une vieille aux yeux bleus est venue s'asseoir sur le banc de pierre où je rêvais. Comme elle s'asseyait, sa jupe brune est remontée et j'ai aperçu dans un gros soulier de cuir le plus mignon petit pied qu'on puisse voir. Elle baissait la tête, le chapeau noir me cachait son visage. Elle avait ramené ses pauvres mains de petite fille malade et se serrait dans son châle, toute maigre, toute légère. On aurait dit une enfant de 12 ans. Elle eut peut-être conscience de la pitié qui navrait mon cœur, car elle leva la tête et me regarda de ses yeux vagues et noyés. Ce regard, qui rencontra le mien pendant une seconde, me conta une longue histoire d'amour et de regrets. Il y avait dans ses yeux pâles une tristesse tendre. Tous les désirs âpres de la jeunesse et toutes les lassitudes du vieil âge. Les nuits ardentes avaient rougi les paupières et les cils manquaient, brûlés par les larmes chaudes de la passion. Elle devait aimer encore. La pauvre vieille aux yeux bleus, n'être pas lasse, regretter les années rapides. Elle tremblait au soleil, songeant aux baisers brûlants, à la volupté fiévreuse d'autrefois. Je crus avoir pénétré jusqu'au cœur d'une de ces créatures mystérieuses. Les yeux avaient parlé, et je me dis que je savais maintenant d'où venaient les vieilles aux yeux bleus qui, dans les rues, jettent parfois encore aux jeunes hommes des regards sournois et affamés. Elles viennent des amours de nos pères. Chapitre 5. Je regardais le petit pied dans le gros soulier de cuir. Elle avait 16 ans. C'était une mignonne fille, toute blanche et rose, avec de doux cheveux cendrés qui se pliaient mollement le long de ses joues. De longs cils d'or voilaient l'immensité bleue de son regard, et elle avait au menton un petit trou qui se creusait quand elle riait. Elle riait toujours. Ses doux cheveux cendrés lui avaient fait donner le nom de Sandrine. D'autres la nommaient Risette, parce qu'ils n'avaient jamais vu ses lèvres sans le sourire qui creusait le petit trou de son menton. Elle n'était pas comme les filles de notre âge, qui ont trouvé le moyen de se vêtir de soie sans tirer une seule aiguillée par jour. Elle cousait la journée entière et ne portait que des robes d'indienne. Mais quelle belle indienne, gaie, propre, toute chaste et candide. Un bonnet de linge au chignon, un mince foulard au cou, les bas blancs et les bras nus. Elle vous accueillait en bonne fille, tendant les mains, la belle humeur dans les yeux et sur les lèvres. Toute sa petite personne exprimait une tendresse pure, une gaieté saine et forte. Il y avait dans ses éclats de rire une douceur amoureuse qui allait à l'âme. Oh, la bonne et tendre enfant qui était plus provocante et plus riche dans son indienne claire que toutes ces filles plâtrées étalant leurs volants de dentelle sur le marchepied de leur voiture. Sandrine, il faut le dire, était un cœur capricieux. Mais ce cœur avait tant de franchise, il aimait beaucoup, un peu partout, jamais dans 2 endroits à la fois. L'enfant était une simple d'amour qui se laissait bêtement conduire par ses tendresses. Elle allait où allaient ses baisers, sans se défendre. Elle ne se cachait point d'ailleurs, elle aimait en plein jour, elle disait « je t'aime » et n'hésitait pas davantage pour dire « je ne t'aime plus ». Comme son dernier baiser était toujours aussi bon que le premier, aucun de ses amants n'avait songé à se fâcher contre elle. Risette était bien connue des feuillages de la banlieue, des bosquets, des bals publics. Elle trouvait moyen de travailler toute la journée et de rire toute la nuit. Les uns assuraient qu'elle ne dormait jamais, les autres riaient doucement en entendant ses paroles. Elle menait ainsi une vie toute libre, toute gaie. Elle vivait dans la santé du travail, dans les voluptés douces de l'amour, dans l'active sérénité des plaisirs. Elle donnait son cœur en aumône. Elle ne comptait point ses rires ni ses baisers, elle croyait à l'éternité de sa jeunesse et de ses joies. Sandrine, Risette, l'enfant aux doux cheveux cendrés, l'amande qui riait toujours pour creuser davantage la fossette de son menton, chantait à haute voix la chanson de la 16e année, toute pleine d'amour, ayant hâte d'aimer, d'aimer beaucoup, pour ne point étouffer. Elle usait ses petits pieds à courir dans les herbes, sur le plancher des balles, partout où il y avait des baisers dans l'air. Chapitre 6. La jupe brune est retombée sur le petit pied qui dormait maintenant dans le gros soulier de cuir. Mes regards sont lentement montés du pied au visage. Le visage m'a paru effrayant, blafard et rouge brique, avec des cheveux gris qui se collaient aux tempes. Les yeux ternes et liquides étaient d'un bleu sale. La fossette faisait un trou noir au milieu de l'os saillant du menton. La triste amoureuse grelottait au soleil de juin, dans sa vieillesse et son abandon. La jeunesse n'avait pas été éternelle, et l'enfant, un matin, s'était éveillé vieille femme. Les amants avaient frémi devant ses lèvres usées, comme je frémissais moi-même à la voir me regarder d'un œil avide et éteint. Eh bien, non. Je t'aime, pauvre Risette, pauvre Sandrine. Je veux ne voir que ton petit pied, te suivre dans les rues, éternellement, sans jamais te parler. Comme un amant timide, tu seras l'amoureuse de mes jours de tristesse, toi que j'ai rêvé sur un banc du Luxembourg par un soleil de juin. Et ne venez pas me démentir, ô chère vieille aux yeux bleus, lorsque j'affirme que vous êtes les fantômes désolés des jeunes amours d'autrefois.